Gilles, on va te laisser poursuivre.
Oui, écoute, j'ai regardé brièvement toute la série de questions dans le QNR. Il y a quand même une question qui a été posée là au sujet du chef de Javan. Est-ce que c'est une personne qui était là ou qui était à venir? Mais le chef de Javan était tout simplement un mauvais esprit qui était derrière les chefs grecs de l'époque qui allaient suivre celle de Daniel, évidemment. Donc, c'était futur pour Daniel, c'était passé pour nous. Mais tout ce que ça dit pour le présent, c'est que c'est clair qu'il y a des puissances démoniaques qui influencent des gouvernements de ce monde. Puis, il y a une petite note d'un frère qui est au Burkina Faso qui nous informe qu'il y a un coup d'État là-bas aujourd'hui. Donc, gardons à l'esprit de prier aussi pour nos frères et sœurs là-bas, qui vivent aussi de grandes difficultés et épreuves. Donc, on est avec toi, frère, là, qui nous écrit de là-bas. OK, peut-être maintenant, juste pour poursuivre dans les notes de cours, si vous revenez au syllabus, enfin, moi, j'étais parti là, dans mes notes individuelles, mais si on revient au syllabus, c'est assez court. Vous avez le paragraphe, enfin, la section qui nous parle de l'impact de la vision sur Daniel, et c'est là maintenant que je veux m'attarder un peu. C'est un petit peu un retour sur l'essentiel de ce qu'on vient de voir dans le chapitre 10. Donc, Daniel, dans ce chapitre-là, on a vu au verset 5 et 6 en particulier, il a eu une vision de Christ préincarné, et cette vision-là, il l'a eue dans la troisième année de Cyrus, comme on l'a souligné. Et après avoir passé à travers toute la période de captivité, s'être réjoui du décret de Cyrus hein, qui allait permettre aux Juifs de retourner en Judée, qui était une réponse à sa prière aussi, hein, suite à ses lectures du livre de Jérémie. Daniel, il est maintenant un vieillard. Quelqu'un a posé la question, quel âge avait-il à peu près? Ben, on peut penser que c'était quelque part entre 85 et 90 ans. C'est difficile à dire exactement, mais il était certainement très âgé. Disons, il est amené, il avait 14 ans, il a passé les 70 ans d'exil, ça nous mène à 8 ans, 4 ans, avec quelques temps, 2 ans ou 3 ans de l'Empire perse au pouvoir maintenant. Donc, on parle de quelque chose entre probablement 85 et 90 ans. Et là, alors qu'il est âgé à ce point, eh bien, il reçoit une dernière vision dans sa vie de communion, de service avec le Seigneur. Et cet homme qui lui apparaît au verset 5 était sans aucun doute une Christophanie, donc une apparition du Seigneur Jésus-Christ préincarné. C'est Jean 1, 18 hein, qui nous dit que personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui le révèle, qui le fait connaître. Et chaque fois qu'on a une apparition de Dieu, une théophanie, ben, c'est dans la personne de Christ, mais ici, avant son incarnation, bien entendu. Et ça a eu un très grand impact sur Daniel. Et on le voit, ce genre d'impact aussi sur d'autres personnes dans les Écritures, ce qu'elles ont expérimenté en voyant Dieu. Dans vos notes de cours, vous avez la citation d'un commentateur qui a dit ceci. J'aurais dû le noter quelque part, je suis désolé pour ça, mais quelqu'un a dit, lorsque nous voyons réellement Dieu, nous nous voyons réellement nous-mêmes. C'est vrai, je ne peux pas m'imaginer hein, t'sais, un homme pécheur qui se retrouve devant la sainteté absolue de Dieu, que ce soit dans une vision ou une christophanie ou une théophanie quelconque. Ben le réflexe est le même chez toutes ces personnes-là. Paf, elle tombe par terre et un peu comme morte même, complètement affaiblie. Et c'est vrai aussi que d'une manière générale, ceux qui sont les plus près de Dieu, comme on le voit aussi dans vos notes, eh bien, sont ceux qui sont les plus conscients probablement de leur péché aussi. Vous avez quelques exemples bibliques qui sont mentionnés dans vos notes de cours, incluant Job, Ésaïe, Ézéchiel, Jean et Paul. Vous prendrez le temps de lire ces passages-là et de comparer leurs réactions, leur attitude ou leurs paroles devant cette immense révélation de Dieu dans toute sa sainteté. Dans le chapitre 10, Daniel est appelé un homme bien-aimé, mais ça veut dire qu'il est bien aimé de Dieu, quoi. Mais malgré tout, la vision va avoir un impact extraordinaire là, de crainte et de peur sur lui. C'est intéressant, ça, parce que je pense comme s'il se disait, ou qui se disait pas plutôt, oh, je suis un bien-aimé de Dieu, alors voilà, moi je peux sans crainte voir face à face Dieu, et puis, ben, c'est voilà, c'est rien du tout, je suis un bien-aimé après tout. C'est le contraire, hein? Même, et d'une manière particulière, le bien-aimé de Dieu, il tombe par terre comme mort. Ça fait penser à Jean qui voit le Seigneur glorifié, puis waouh, quelle vision extraordinaire! Et l'impact que ça a sur ces personnes aussi. On voit que c'est un effet remarquable. Par la suite de cette vision-là, eh bien, l'ange Gabriel va intervenir. Et ouais, je suis convaincu qu'il s'agit plutôt de l'ange Gabriel que du Seigneur. Je l'ai mentionné pourquoi, les raisons tout à l'heure, mais ce n'est pas grave quand même, ça a du sens. Ce que le commentaire de la Bible a noté nous dit comme possibilité aussi, comme alternative à ça. On a souligné que ce chapitre-là de Daniel, par la suite, nous permettait de jeter un coup d'œil dans le monde invisible. On a souligné que le chef de la Perse, comme celui de Javan aussi, c'était simplement une façon de parler des esprits mauvais, démoniaques, qui agissaient pour influencer les rois de Perse ou de Grèce ou de n'importe quelle autre puissance mondiale. Et c'est un regard qui nous est donné derrière le rideau, mais que le Nouveau Testament confirme aussi par les écrits de Paul. Et on sait que Satan est le prince de ce monde, et donc il n'y a aucun doute que bien des esprits mauvais agissent auprès de gouvernements du monde, comme c'était le cas à l'époque de Daniel, probablement et certainement que c'est encore le cas aujourd'hui. Puis on voit aussi ben, à quel point ce conflit-là est grand et immense. Il y a entre autres Michael, l'archange, le chef des anges, qui va être le principal artisan de ce combat-là avec Gabriel. Alors, voilà ce que nous parle ce chapitre 10-là. Puis, il nous aide en réalité, si vous voulez résumer le chapitre 10 dans votre tête, là, il me semble que la compréhension qu'on doit en avoir, c'est voici ce qui se passe dans le monde invisible, alors que les voies de Dieu, les plans de Dieu sont en train de se dérouler sur la terre. Ça attise un conflit dans le monde spirituel et il y a une guerre spirituelle qui s'ensuit parce que c'est évident que Satan s'y oppose et va tout faire pour empêcher ces choses d'arriver. Maintenant, on arrive au chapitre 11. Je veux simplement lire le verset 1 pour faire un bref commentaire et après ça, je vais lire le reste du chapitre pour finir avec quelques commentaires généraux sur le chapitre. Mais au verset 1 du chapitre 11, on lit ceci. Excusez-moi. Et moi, dans la première année de Darius, le Mède, je me tins là pour l'aider et le fortifier. Qui parle, c'est toujours Gabriel qui parle, qui nous resitue dans le début même du règne des Mèdes et des Perses en nous parlant de Darius le Mède. Donc, vous vous rappelez la discussion qu'on a eue là-dessus? Probablement que Darius le Mède est un gouverneur qui a été placé sur la ville de Babylone alors que Cyrus le Grand était sur l'empire même, qui existait avant comme puissance, mais qui n'était pas encore un empire, vous comprenez? Mais les Mèdes et les Perses étaient déjà, oui, il y avait déjà des rois avant, il y avait déjà une puissance là, mais ce n'était pas encore cette puissance mondiale qui allait faire tomber Babylone et prendre la place en tant que deuxième empire mondial de la vision que Daniel avait eue, en fait que Nebuchadnezzar avait eue et que a été confirmée par la suite à Daniel dans une autre vision au chapitre 7 de son livre. Donc, Gabriel est en train de nous dire et nous ramener au début du règne de l'empire des Mèdes et des Perses pour nous dire qu'il y avait déjà une activité angélique à ce moment-là. C'est intéressant, ça. Et c'est comme une note chronologique pour dire à Daniel, le conflit là, qui est en train de se produire dans le ciel concernant les Mèdes et les Perses et ce qui se passe à Jérusalem, il ne faut pas oublier ce contexte-là. Il faut que ce soit toujours derrière le décor, là. C'est à Jérusalem que ça se passe tout le brouhaha, là. Et puis, voilà. Et ce qui va arriver aussi avec les Grecs, Ben, c'est là depuis le début. En fait, c'est un peu comme si Gabriel, c'est ça qu'il disait à Daniel. Ben, j'étais là pour l'aider et le fortifier. Il parle de Michaël. C'est intéressant, ça. Michaël, c'est l'ange plus puissant que Gabriel, il n'y a aucun doute. Mais Gabriel est là comme un serviteur pour l'aider, pour le fortifier. Il y a des traductions qui vont plutôt dire pour le soutenir, le supporter, lui apporter un quelconque soutien. Quoi qu'il en soit, Gabriel et Michaël sont ensemble dans ce combat spirituel. Et c'était là, c'était déjà là quand les Mèdes et les Perses sont arrivés au pouvoir en tant qu'empire mondial. Donc, c'est comme s'il disait à Daniel, surprends-toi pas de ces faits-là, c'était là, ce sera encore comme ça. Et puis, quelque part, ça nous dit aussi, surtout avec ce qu'on lit dans les Épîtres de Paul, que effectivement, c'est pas terminé, ce sera encore comme ça pendant un moment. Alors, maintenant, on arrive au chapitre 11 à partir du verset 2. Nous allons entrer en détail. Et là, dans vos syllabus, vous avez la structure du chapitre 11 qu'on a intitulé Les prophéties sur la Perse, la Grèce et la fin des temps. Nous n'allons pas considérer la période de la fin des temps parce que je l'ai réservée pour le dernier cours qui aura lieu dans 2 semaines. On devrait terminer, en fait, un cours à l'avance ou une session à l'avance, parce que c'est assez compliqué de prévoir exactement quand est-ce qu'on va terminer, parce que c'est pas comme en classe quand c'est hyper interactif avec les étudiants. Là, c'est magistral presque d'un bout à l'autre. Alors, c'est plus difficile de prévoir les sessions, mais on devrait terminer, Dieu voulant, à la prochaine session avec 11, 36 à 12 à la fin. Alors, je laisse de côté la fin du monde, là, si vous voulez, la fin des temps pour la prochaine fois, pour la fin du cours. Mais maintenant, nous allons voir donc cette période perse et grecque. Et pourquoi? Parce que c'est une interaction directe avec le peuple d'Israël en raison des prophéties qui ont été faites déjà sur la succession des empires mondiaux. Avant de regarder les tableaux qui sont dans vos syllabus de cours, nous allons lire ce chapitre-là, chapitre 11 de Daniel. Alors, je commence au verset 2. Et maintenant, je te déclarerai la vérité. Voici, il s'élèvera encore 3 rois en Perse, et le quatrième deviendra riche de grandes richesses, plus que tous. Et quand il sera devenu fort par ses richesses, il excitera tout contre le royaume de Javan. C'est la Grèce, ça. Donc, les Mèdes et les Perses vont aller en conflit avec la Grèce avant que la Grèce devienne un empire mondial. Et un roi vaillant se lèvera et exercera une grande domination et il agira selon son bon plaisir. Et quand il se sera levé, son royaume sera brisé et sera divisé vers les quatre vents des cieux et ne passera pas à sa postérité. Il ne sera pas selon la domination qu'il exerçait, car son royaume sera arraché et sera à d'autres, outre ceux-là. Et le roi du Midi sera fort et un de ses chefs. Mais un autre sera plus fort que lui et dominera. Sa domination sera une grande domination. Et au bout de plusieurs années, ils s'uniront ensemble. Et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Nord pour faire un arrangement droit. Mais elle ne conservera pas la force de son bras et il ne subsistera pas, ni son bras. Et elle sera livrée, elle et ceux qui l'ont amenée, et celui qui l'a engendrée, et celui qui, j'ai perdu le texte, qui lui aidait dans ces temps-là. Mais d'un rejeton de ses racines se lèvera à sa place un homme, et il viendra à l'armée, et il entrera dans la forteresse du roi du Nord, et il agira contre eux, et se montrera puissant. Et même il amènera captifs en Égypte leurs dieux et leurs princes, avec leurs objets précieux, l'argent et l'or. Il subsistera plus d'années que le roi du Nord. Et celui-ci viendra dans le royaume du roi du Midi, et il retournera dans son pays. Mais ses fils s'irriteront et rassembleront une multitude de forces nombreuses, et l'un d'eux viendra et inondera et passera outre, et il reviendra et poussera le combat jusqu'à sa forteresse. Et le roi du Midi s'exaspérera et sortira et fera la guerre contre lui, contre le roi du Nord. Et celui-ci mettra sur pied une grande multitude, mais la multitude sera livrée en sa main. Et quand la multitude sera ôtée, son cœur s'exaltera. Il fera tomber des myriades, mais il ne prévaudra pas. et le roi du Nord reviendra et mettra sur pied une multitude plus grande que la première. Et au bout d'une période d'années, il s'avancera avec une armée nombreuse et de grandes richesses. Et dans ces temps-là, plusieurs se lèveront contre le roi du Midi, et les violents de ton peuple s'élèveront pour accomplir la vision, mais ils tomberont. Et le roi du Nord viendra, et il élèvera une terrasse et s'emparera de la ville forte, et les forces du Midi ne tiendront pas ni l'élite de son peuple, et il n'y aura pas de force en lui pour se maintenir. Mais celui qui vient contre lui agira selon son gré, et il n'y aura personne qui lui résiste. Il ne tiendra, et il se tiendra dans le pays de beauté, ayant la destruction dans sa main. Il me fait rire un peu ce texte-là, parce que c'est incroyable. C'est OK, le roi du Nord descend contre le roi du Sud, il se défend, il perd, il se relève, il part vers le roi du Nord, il se bat contre le roi du Nord. C'est comme, pouvez-vous rester chacun chez vous? Il me semble là, ça réglerait le problème. Ça me fait tout le temps rire ce chapitre-là parce que c'est vraiment ça. C'est deux puissances incapables de rester chez elles puis qui passent son temps à aller vers l'autre pour essayer de la renverser. Le problème, c'est qu'Israël est en plein milieu. Israël est la terre du milieu. Or, souvent, quand un de ces deux rois-là est frustré par la défaite qu'il a subie, soit au nord ou au sud, ben, c'est Israël qui a subi ses défoulements. Verset 17. Il dirigera sa face pour venir avec les forces de tout son royaume et des hommes droits avec lui. Et il agira et il lui donnera la fille des femmes pour la pervertir, mais elle ne tiendra pas et elle ne sera pas pour lui. Et il tournera sa face vers les îles et il en prendra beaucoup. Mais un chef mettra fin pour lui à son opprobre et le fera retomber sur lui-même, son opprobre sans opprobre pour lui. Et il tournera sa face vers les forteresses de son propre pays. Il branchera et tombera et ne sera pas trouvé. Puis il s'en élèvera un à sa place qui fera passer l'exacteur par la gloire du royaume. Mais en quelques jours, il sera brisé non par colère ni par guerre. Et un homme méprisé s'élèvera à sa place auquel on ne donnera pas l'honneur du royaume. Mais il entrera paisiblement et prendra possession du royaume par des flatteries. Et les forces qui débordent seront débordées devant lui et seront brisées, et même le prince de l'Alliance. Et dès qu'il se sera associé à lui, il agira avec fraude et il montera et sera fort avec peu de gens. En pleine paix, il entrera dans les lieux les plus riches de la province et il fera ce que ses pères et les pères de ses pères n'ont pas fait. Il leur distribuera du butin et ses dépouilles et des richesses. Il tramera ses desseins contre les places fortes et cela pour un temps. Et il réveillera sa puissance et son cœur contre le roi du Midi avec une grande armée. Et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une grande et très puissante armée, mais il ne tiendra pas, car ils trameront leur dessein contre lui. Et ceux qui mangeaient ses mets délicats le briseront, et son armée se dissoudra, et beaucoup de gens tomberont tués. On voit là-dedans là, de la traîtrise. Et ces deux rois auront à cœur de faire du mal et diront des mensonges à une même table. Mais cela ne réussira pas, car la fin sera encore pour le temps déterminé. Et il retournera dans son pays avec de grandes richesses, et son cœur sera contre la Sainte Alliance, et il agira et retournera dans son pays. Au temps déterminé, il retournera et viendra dans le Midi. Mais il n'en sera pas la dernière fois comme la première, car les navires de Kittim viendront contre lui, il sera découragé et retournera et sera courroucé contre la Sainte Alliance et il agira. Tu sais, je vous disais tout à l'heure, là, il était frustré de perdre une place, ben Israël va y goûter. C'est exactement ce que ça dit dans ce passage-là. Et il retournera et portera son attention sur ceux qui abandonnent la Sainte Alliance. Et des forces se tiendront là de sa part et elles profaneront le sanctuaire de la forteresse et ôteront le sacrifice continuel et elles placeront l'abomination qui cause la désolation. Et par de douces paroles, il entraînera à l'impiété ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'Alliance. Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira. Et les sages du peuple enseigneront la multitude et ils tomberont par l'épée et par la flamme, par la captivité et par le pillage plusieurs jours. Et quand ils tomberont, ils seront secourus avec un peu de secours et plusieurs se joindront à eux par des flatteries. est d'entre les sages, il en tombera pour les éprouver ainsi, et pour les purifier, et pour les blanchir jusqu'au temps de la fin, car ce sera encore pour le temps déterminé. Intéressant quand même, j'arrête là la lecture parce que à partir du verset 36, on change de registre, mais on expliquera ça la prochaine fois. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que on dirait qu'en lisant le chapitre, on a l'accomplissement d'une partie de la 70e semaine, en réalité, avec ce qui est dit au niveau de l'abomination, de la désolation, au niveau de l'alliance contractée avec Israël, avec des renégats, là, forcément, d'Israël. Et puis là, on semble voir l'accomplissement. Ça peut être... ça pourrait donner un argument à ceux qui disent, ben, vous voyez que la 70e semaine, c'est déjà passé, ça, c'est arrivé pendant la période grecque sous Antioche Épiphane. Par contre, j'aime bien que le Seigneur Jésus, lui, parle non pas de passé, mais de futur, en se référant à la 70e semaine de Daniel, en disant, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, alors fuyez. Alors, on voit clairement qu'il y a un aspect futur lié à la fin des temps, mais sans aucun doute, il y a eu un accomplissement partiel, du moins, ou semblable, peut-être que ce serait mieux de le voir ainsi, dans ce que Antioche Épiphane a fait avec le peuple d'Israël en profanant le temple là, et puis en suscitant la colère des Maccabées qui vont se battre contre lui. Nous allons en parler en détail, c'est une façon de parler, là, mais surtout qu'on va se servir d'aide de tableau parce que, on voit là, la succession, je pense que c'est assez évident, là, le roi du Nord contre le roi du Sud, tout ça, on voit très bien tout ça, mais il y a quand même beaucoup de détails là-dedans qui sont intéressants, qui nous demandent d'y porter une attention particulière, mais ça devient un petit peu mêlant avec tous les détails qu'il y a là-dedans. Alors, c'est pour ça que j'ai pensé que des tableaux ici seraient vraiment plus efficaces, parce que même si je donnais le nom de chaque roi, c'est fait, là, vous allez le trouver dans le tableau, mais même si on le faisait simplement comme ça ensemble, je pense qu'on pense pas qu'on retiendrait tout ça, à moins que vous ayez une mémoire hallucinante. Mais moi, je ne serais pas capable de retenir tout ça. C'est pas possible. J'ai besoin des tableaux. Mais avant de parler des Grecs, il y a très brièvement la période perse qui est abordée dans ce passage-là. Donc, vous voyez là, le plan du chapitre 11. La période perse, c'est très court, versets 1 et 2. La période grecque, c'est de 3 jusqu'à 35. Puis la période de la fin des temps, c'est 36 à 45. Il y a beaucoup de critiques de la Bible, puis on a souligné cela d'ailleurs, qui disent c'est pas possible d'avoir une telle précision. L'histoire et ce qui s'est passé par la suite confirment toutes ces prophéties-là, et c'est tellement précis que ceux qui ne croient pas à l'inspiration de la Bible et à la capacité de Dieu de révéler ce qui va arriver avant que ça arrive, ben, il dit que ça a été écrit forcément après les événements, ce qui fait que c'est pas Daniel qui a écrit ça, c'est pas possible. Mais franchement, Dieu peut révéler le nom de Cyrus 150 ans à l'avance sans aucun problème, puis il peut révéler tout ce qui va se passer sans aucune difficulté. Donc, concernant la période perse, on lit dans vos notes de cours, au moment où Daniel a reçu cette vision, Cyrus le Perse était au pouvoir, c'est ce qu'on voit au verset 10.1, à l'époque où c'était Darius le Mède qui était sur Babylone aussi. Et les trois rois suivants qui sont mentionnés dans ces versets-là par l'ange Gabriel sont Cambyse, Smerdis et Darius Istap. Et puis, vous avez dans le tableau qui suit, moi, je le trouve super, ce tableau-là. Puis ça, c'est une erreur que j'ai faite à répétition dans le passé. J'ai pris des notes ici et là. J'ai pris des tableaux dans des ouvrages et je ne pensais pas à cette époque que c'était important d'indiquer la référence. J'aurais dû, mea culpa, mais franchement, là, c'est une erreur que j'ai faite. Et puis, j'aimerais vous dire exactement, ce tableau-là vient de tel ouvrage, mais je ne m'en rappelle pas toujours. Il y a des bonnes chances que ça vienne du dictionnaire biblique d'Emmaüs de René Pache, mais je n'ai pas vérifié. Mais c'est fort possible que ça vienne de là ou du commentaire biblique du chercheur, parce que ce sont les deux ouvrages qui me donne souvent des tableaux pour alimenter les informations dans les cours que je donne. J'aime beaucoup, beaucoup les tableaux de ces deux ouvrages, Commentaire biblique du chercheur, soit Ancien Nouveau Testament et aussi le nouveau dictionnaire biblique d'Emmaüs. Je pense que c'est de là que ça vient. Et puis, vous avez dans ce tableau-là, donc, la succession des rois. Le roi qui nous intéresse en particulier comme premier roi perse, c'est Cyrus II, le Grand. Donc, on voit qu'il y a déjà eu avant lui Cambyse et puis probablement qu'il y a eu d'autres monarques avant. Mais en lien avec le récit biblique, c'est à partir de là que ça devient intéressant. Et les trois qui sont mentionnés dans le tableau suite à Cyrus sont les rois qui sont évoqués dans le chapitre 11 au tout début, verset 2. Il s'élèvera trois rois encore en Perse et le quatrième. Donc, autrement dit, ces cinq monarques, Darius le Mède, co-régent avec Cyrus le Grand, et puis là, après ça, ben, on peut voir ceux qui vont s'en suivre avec Cambyse, tout ça. Donc, les références bibliques sont claires aussi, ça va vous permettre d'aller voir les textes parallèles qui correspondent avec la période. Génial, franchement, ce tableau-là, il est bien fait pour ça. Et puis, vous avez les actes notoires, les principaux événements qui se sont produits pendant ce temps-là. Donc, ça, ces tableaux-là nous aident vraiment. Alors, Éric Fuchs nous confirme là, que ça vient du dictionnaire biblique. Merci, Éric, pour l'info. C'est très apprécié. Je me doutais un peu que c'était de là, mais je n'étais pas certain à 100%. Donc, voilà, c'est tellement, tellement précis. Et l'histoire a confirmé avec précision là, ces prophéties-là. Donc, le quatrième roi évoqué dans ce passage, qui devait amasser plus de richesses que tous les autres et qui devait soulever aussi tout contre le royaume de Javan, c'est-à-dire la Grèce, eh bien, c'est le fameux Assuérus du livre d'Esther. C'est de lui dont il est question, qui est aussi appelé Xerxès. Donc, lui devait faire ça, amasser plus de richesses que tous les autres et puis essayer même de conquérir la Grèce, qui était une puissance montante. Pas une puissance mondiale, bien entendu, mais une puissance montante. Et c'est Assuérus du livre d'Esther qui devait faire ça. Assuérus a envahi la Grèce en 480 avant Jésus-Christ. Et puis, cette vision-là, elle a été donnée, je le rappelle, à Daniel, la troisième année de Cyrus, ce qui nous amène à peu près vers 537. Donc, autrement dit, Daniel a eu la vision de cette invasion par Assuérus 50 ans avant que ça arrive. Et puis, il le détaille ici dans son livre, 50 ans avant les événements. Et parfois, on a des périodes, évidemment, qui sont bien plus longues, mais ça reste quand même que c'est une précision historique parfaite. Et on sait que plus tard, les envahisseurs perses vont être finalement battus par la flotte grecque d'Athènes lors de cette fameuse bataille de Salamine en 480 avant Jésus-Christ. Et c'est très bref, mais c'est l'essentiel de ce qui était important à savoir au niveau de l'Empire des Mèdes et des Perses. C'est pas plus que ça. On passe directement avec la période grecque, avec la mention du royaume de Javan, qui est un ancien terme pour la Grèce, au verset 2. Et d'ailleurs, cette mention-là est la clé pour nous aider à comprendre qu'il y a un intervalle entre les versets 2 et 3, parce que le vaillant roi du verset 3 n'est pas un roi perse, mais c'est un roi grec, c'est Alexandre le Grand, qui est la grande corne du bouc du chapitre 8. Eh bien, c'est là qu'on arrive maintenant avec une confirmation de ces prophéties visionnaires, hein, dans des visions extraordinaires avec des animaux et une statue métallique au départ aussi. Et puis voilà, maintenant, ce qu'on voit, c'est le roi vaillant, verset 3, c'est Alexandre le Grand. On dit qu'à peu près un siècle et demi après l'invasion de la Perse, l'invasion perse plutôt de la Grèce, Alexandre, il a conquis les forces grecques à une victoire contre les envahisseurs perses. Rappelez-vous le bouc qui rentre à pleine face du bélier à deux cornes, qui était les Mèdes et les Perses et qui les a jetés par terre. Alexandre le Grand, c'est un siècle et demi plus tard, va amener cette grande victoire. Et quand il va mourir en 323 avant Jésus-Christ, son empire ne sera pas légué à sa lignée, à ses descendants propres. Hein? C'est ce qu'on a vu dans le texte. C'est pas dans sa lignée que se poursuivra son royaume et son empire, mais c'est plutôt parmi ses généraux. Et donc, quatre hommes vont se partager l'empire d'Alexandre. Et ça va être toute une période de confusion et de guerre par la suite entre ces généraux-là, surtout les généraux du royaume du Nord et du Sud, du Midi, comme on le voit dans le chapitre 11. Ptolémée était le premier général en Égypte et qui gouvernait aussi pendant longtemps Israël et l'Arabie. Séleucos était quant à lui sur la Syrie, Babylone et jusqu'aux Indes même, dit-on. Cassandre était resté dans ce qui était originalement le royaume de Grèce, la Macédoine et la Grèce, et Lysimaque était plutôt en Thrace et en Bithynie. Donc, ces quatre généraux-là se sont un peu partagés l'empire grec d'Alexandre le Grand, mais les deux principaux qui ont un rôle important en lien avec l'histoire biblique et surtout le peuple d'Israël, ce sont bien entendu Séleucos et Ptolémée, Séleucos au nord, Ptolémée au sud, et les deux dynasties qui vont s'en suivre. Et c'est ce qu'on voit dans le chapitre 11. Deux dynasties, les Ptolémées contre les Séleucides, qui se battent constamment l'une contre l'autre dans le but de dominer l'autre et de prendre un pouvoir et un contrôle généralisé. Franchement, là, c'était assez impressionnant de voir l'exactitude historique de ces prophéties-là. Donc, sans repasser chacun des versets, vous pouvez avoir dans vos notes de cours un tableau. Oui, c'est à la page suivante, au bas de la page 25. Un tableau qui vient du commentaire biblique du chercheur. Ah bon, quand même, j'ai eu la sagesse à ce moment-là de l'inscrire. Et puis, je l'ai mis probablement moi-même en français. Je ne crois pas que ça vient de l'édition française parce qu'à l'époque, on ne l'avait pas encore en français. Et là, vous pouvez voir la succession des Ptolémées, des Séleucides, c'est les rois du Midi et les rois du Nord, et qui se font la guerre et avec les versets précis, puis les noms, puis les dates. Là, ça donne une très, très, très bonne idée de ce qui se passe. Si vous voulez plus d'informations, lisez le premier livre des Maccabées dans la Bible de Jérusalem ou la Tob. Français courant aussi a intégré dans certaines éditions les livres dits apocryphes, qui sont des livres juifs, mais qui ne font pas partie du canon de l'Écriture, mais qui ont une certaine valeur historique et religieuse, et même pour nous expliquer un peu l'arrière-plan d'Israël à différents égards. Alors, dans le livre des Maccabées, on voit aussi tous ces conflits-là détaillés dans le livre de Daniel au chapitre 11. S'il y a un personnage qui nous intéresse d'une façon particulière, c'est bien sûr Antioche Épiphane. Là, je m'excuse parce que ce nom-là, on a décidé comment l'écrire en français parce que parfois Antioche en S, parfois c'est Antiochos, parfois Antiochus, parfois Épiphane en S, parfois il n'y en a pas. Ça devient mêlant, puis je me suis rendu compte ce matin que je l'écrivais à peu près n'importe comment dans mes notes de cours. Je suis désolé d'être si incohérent là, dans ma façon d'écrire le nom, mais vous pouvez le reconnaître quand même, Antioche, Épiphane, peu importe comment on l'écrit, on sait de qui on parle exactement. Dans les versets 21 à 35, on rencontre à nouveau ce Antioche Épiphane. C'est la petite corne de Daniel 8 dont on avait déjà parlé. L'historien juif Joseph Flavius du 1er siècle de notre ère raconte avec passablement quand même de détails la carrière de ce roi-là, ce roi séleucide, et surtout les persécutions qu'il a orchestrées contre le peuple juif. Daniel 11, verset 25, nous parle d'une expédition victorieuse contre l'Égypte. Donc, contre les Ptolémées au sud, dans le Midi. Et puis au verset 29, il va tenter une nouvelle expédition, mais cette fois-là, il va recevoir de l'opposition venant de nouvelles forces militaires qui étaient en train de se mettre en place dans le bassin méditerranéen, c'est-à-dire les Romains. Et on sait que c'est les Romains simplement à cause de l'expression au verset 30, les navires de Kittim. Et Kittim est un ancien nom pour l'île de Chypre. Et on sait que dans ces années-là, Les Romains étaient déjà cantonnés, basés sur l'île de Chypre avec des navires et une armée prête à intervenir dans les conflits au Moyen-Orient dans le but de prendre le contrôle de cette région-là. Ça va arriver, mais encore beaucoup plus tard. On parle de 100 ans plus tard, c'est-à-dire 100 ans après Antioche Épiphane. Hein? Ne nous trompons pas, la profanation du temple a lieu de mémoire en 165 avant Jésus-Christ, 167 à 165 dans ce coin-là, et c'est en 63 que Pompée, le général romain, va entrer en Palestine. Mais ils sont déjà bien installés dans le bassin méditerranéen et surveillent. J'ai cherché ce matin à retrouver la source, il me semble que c'est dans un livre de Bruce Metzger, qui racontait comment ça s'était passé, cette fameuse... c'est cette fameuse rencontre entre les Romains et Antioche Épiphane qui se préparait à envahir l'Égypte à nouveau. Et puis un général romain est débarqué auprès d'Antioche et lui a donné l'ordre de retourner tout de suite dans son pays et de ne pas envahir l'Égypte parce que les Romains allaient intervenir et le chasser et le détruire. Alors ils lui ont dit « Retourne en Syrie, retourne au nord chez toi et reste tranquille. » Je paraphrase. Apparemment, Antioche Épiphane aurait répondu à ce général romain je vais y penser. Je vais y penser puis t'as donné ma réponse. Et puis le général romain a pris son glaive, a tracé un cercle dans le sable autour d'Antioche Épiphane et lui a dit prends ta décision avant de sortir du cercle. Donc, il a très bien compris qu'il n'y avait pas de délai, il devait tout de suite retourner. Et puis c'est en retournant que, il s'est défoulé sur le peuple juif. Mais d'une façon assez impressionnante. Joseph Flavius nous donne un récit de ça, ou d'une partie de cette histoire, disons. Vous avez l'extrait qui est dans vos notes de cours, mais je vois le temps qui file, et puis je me dis, vous pouvez certainement le lire pour vous-même, et vous trouverez certainement des informations aussi, si vous avez le dictionnaire biblique d'Emmaüs, et vous allez sous... soit les Grecs ou Daniel, enfin, il y a beaucoup d'articles qui parlent de ces événements-là. Très intéressant quand même, puis on sait qu'il y a eu beaucoup de traîtrises d'Israël, même, il y a eu, on le voit dans le texte, je ne me rappelle pas le verset exactement, mais où il y a eu parmi le peuple d'Israël des gens qui étaient infidèles à l'Alliance, qui étaient prêts à s'allier aux Grecs et même adopter certains éléments culturels qui étaient une offense à Dieu, surtout concernant certaines viandes à consommer ou pas, etc. Mais on sait que c'est dans ce contexte-là que la famille Maccabée vont se lever debout pour combattre les forces grecques d'Antioche Épiphane et puis vont obtenir une victoire. Et on sait, comme c'est dit dans le texte aussi, que ce n'est pas une armée et ce n'est pas une main d'homme qui va enlever la vie à ce mauvais leader-là. C'est plutôt le Seigneur lui-même par une maladie impressionnante. Et puis, on a déjà évoqué cela dans le chapitre 8 de mémoire avec un texte qui apparaît dans les livres de Maccabée. Donc, il nous reste à peu près 5 ou 6 minutes. Nathan, est-ce que tu juges approprié de... Bon, peut-être avec une période de questions, et puis voilà, on sera rendu à la fin des temps, et puis à la dernière section du chapitre 11, dans 2 semaines, Dieu voulant. Et puis chapitre 12, évidemment, aussi.
Merci, Gilles, pour l'exposition de ce chapitre 11. J'attends encore vos questions sur le chapitre 11. Il y a encore beaucoup de questions qu'on avait vu qui concerne le chapitre 10. Donc, sur le chapitre 11, il y a une question chronologique. Est-ce que le chapitre 11 se situe avant le chapitre 10 à cause des versets 1 de ces deux chapitres? Donc, il y a une question de chronologie qui se pose.
Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, chronologiquement, le chapitre 11 suit le chapitre 10. Seulement, c'est que c'est une note chronologique de la part de Gabriel pour nous indiquer que le conflit dans le monde invisible remonte au début même, ce conflit-là remonte au début même de l'avènement des Mèdes et des Perses. Donc, c'est juste le verset 1, dans le fond, qui une parenthèse dans le récit pour nous dire ben ce conflit-là, il vient pas juste de débuter. C'était déjà là au départ.
Merci. Il y a toujours des questions. Je ne sais pas si tu veux essayer d'y répondre sur l'âge de Daniel au chapitre 10.
Comme j'ai mentionné tout à l'heure, je donnais quelques infos là-dessus. On peut penser entre 8,35 et 90 ans, mais autrement, mystère.
Et puis, une question encore qui vient d'arriver. L'histoire profane ne dit-elle pas qu'Alexandre a épargné Israël?
Oui, même l'histoire profane, j'ai lu dans un livre d'histoire biblique que l'entrée d'Alexandre le Grand est remarquable à Jérusalem. Les sacrificateurs qui voyaient arriver Alexandre et son armée, ils pensaient qu'ils allaient détruire la ville et le temple, alors ils sont sortis avec tous leurs vêtements sacerdotaux au-devant d'Alexandre pour aller à sa rencontre. Et on dit qu'Alexandre a été tellement impressionné qu'il s'est agenouillé devant le souverain sacrificateur. Et donc, l'entrée des Grecs au départ avec Alexandre a été paisible et c'est une conquête qui s'est faite sans bataille, sans guerre. Et donc, ils se sont simplement soumis à l'autorité d'Alexandre le Grand parce que tout s'est fait dans un contexte paisible. Par contre, avec les généraux d'Antioche, pas d'Antioche, mais des Séleucides et des Ptolémées par la suite, là, par contre, non, ça a été une histoire de conflit interminable.
Merci Gilles. Je crois qu'avec ça, on conclut cette session.
Oui, puis on peut conserver, là, il y a encore quatre questions dans le QER. On peut conserver ça pour la prochaine session. Enfin, pas la prochaine, mais pour les réponses par email. Et
Oui.
puis si jamais il y a quelque chose suite à la lecture, peut-être que vous allez prendre le temps de relire ces textes-là, puis vous dites, OK, j'aimerais avoir plus d'infos sur tel et tel verset. Vous n'hésitez pas à les communiquer via Biblos.
Je te laisse conclure par la prière, Gilles.
Oui, volontiers, merci. Merci Seigneur notre Dieu pour ta parole et nous sommes bien petits devant un si grand trésor et d'une richesse incroyable. Seigneur, par la foi, on accepte tout ce que ta parole dit, même les choses qu'on ne comprend pas, puis on croit que c'est vrai parce que c'est ta parole et parce que tu es vrai. Et merci Seigneur parce que l'histoire a confirmé la véracité de la prophétie biblique et puis même, Seigneur, dans les cas où il y a des découvertes archéologiques qui semblent contredire le texte biblique, notre foi n'en est pas ébranlée parce que l'autorité et la crédibilité va avant tout à ta parole, puisque c'est la parole du Dieu vivant et vrai. Seigneur, merci de nous permettre de pouvoir étudier ce livre-là ensemble. Merci pour l'Esprit Saint que tu nous donnes, pour les ressources que nous avons autour de nous, pour ceux qui nous ont précédés, qui ont étudié, qui ont écrit des commentaires, des dictionnaires. Et on peut profiter aujourd'hui et bénéficier du fruit de leur travail, de leurs dons spirituels. Nous te sommes reconnaissants pour cela, Seigneur, et te prions de nous garder pleinement confiants en toi. Père, qu'est-ce qu'on peut retirer de l'étude de Daniel, sinon une foi plus affermie en un Dieu souverain qui contrôle tout dans ce monde? Sois glorifié et honoré, Seigneur, par nos vies. Au nom de Jésus. Amen.
Merci Gilles, merci à toutes et tous pour votre participation ce soir. Et puis, à dans 2 semaines, ce sera la dernière session.